Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 28 novembre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Le Parlement iranien a approuvé l'adhésion de l'Iran à l'ECS. De nouvelles attaques turques contre les bases des FTS en Syrie. Et en Somalie, un hôtel de Mogadiscio a été attaqué. Les Chebabs revendiquent l'assaut. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le Parlement iranien a approuvé l'adhésion à l'ECS de l'Iran. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que le ferme soutien du Parlement à l'adhésion de Téhéran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, indiquait la détermination de la République islamique d'Iran à renforcer sa coopération internationale. M. Amir Abdollahian a fait cette remarque dans un tweet publié dimanche 27 novembre en réaction à l'approbation par la majorité des votes de 205 législateurs iraniens plus tôt le même jour du projet de loi sur l'adhésion de l'Iran à l'ECS. L'Iran a signé un mémorandum d'engagement pour rejoindre l'ECS à la mi-septembre. Aboulfaz Amouhi, porte-parole de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a déclaré que le gouvernement devrait approuver les principaux documents des organisations pour ouvrir la voie à l'adhésion définitive de Téhéran à l'ECS. Dans un tweet, le chef de la diplomatie iranienne a déclaré « Le vote du Parlement pour le projet de loi sur l'adhésion de la République islamique d'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai témoigne de la détermination et du sérieux de notre pays à développer la coopération régionale, internationale et économique et à renforcer les liens avec l'Asie. » Le ministre iranien des Affaires étrangères avait annoncé dans un tweet la signature du mémorandum d'engagement de l'adhésion permanente de l'Iran à l'ECS alors qu'il accompagnait le président Ebrahim Raisi lors d'une visite en septembre dans la ville de Samarcande en Ouzbékistan où se déroulait le sommet de l'ECS. L'ECS a été fondé par la Chine, la Russie, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan en 2001. Et forme actuellement le plus grand marché régional au monde avec 8 membres officiels et 3 États observateurs. L'Iran et l'organisation ont entamé un processus formel pour l'adhésion de Téhéran au bloc en mars. L'adhésion de l'Iran à l'ECS a ensuite été approuvée par le gouvernement iranien. Dimanche 27 novembre, les forces militaires turques ont effectué des frappes aériennes et d'artillerie contre les bases des forces démocratiques syriennes FTS au nord de la Syrie. Des sources locales syriennes ont rapporté que l'armée turque a tiré plusieurs missiles contre la base aérienne de Menar, sous le contrôle des FTS dans le nord de la province d'Alep, en Syrie. Parallèlement à cette opération, les forces militaires turques ont mené des frappes d'artillerie contre les bases militaires autour de la ville de Jarablus, à l'est d'Alep. Des sources d'information syriennes ont fait part de l'arrivée de nouveaux équipements militaires turcs en Syrie. La Turquie a transféré 8 camions militaires, 7 chars, des pièces d'artillerie et des véhicules blindés de transport de troupes en Syrie. Il est à noter que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé mardi 22 novembre que l'armée turque va engager une opération terrestre en Syrie dès que possible pour éliminer les forces kurdes terroristes. Dans le cadre de l'opération Griffe Épée, l'armée turque a mené des raids aériens sur des positions kurdes PKK et YPG dans le nord de l'Irak et de la Syrie dimanche 20 novembre. L'opération aérienne Griffe Épée fait suite à l'attentat qui a fait 6 morts et plus de 80 blessés le 13 novembre dans une artère commerçante d'Istanbul. Les autorités turques accusent le Parti des travailleurs du Kurdistan PKK et les unités de protection du peuple YPG, milice kurde basée en Syrie, qu'elles considèrent comme organisation terroriste. Les prix des denrées alimentaires en Suède ont bondi de 20% cette année, tandis que les factures d'électricité ont plus que doublé, selon les données publiées par l'Agence de la consommation du pays. Le rapport est basé sur des recherches sur le marché de consommation suédois tout au long de l'année et analyse les prix des aliments, de l'énergie, des articles d'hygiène, des chaussures et des vêtements. Ces données, ainsi que les normes de consommation approuvées par le gouvernement du pays, sont utilisées pour déterminer un niveau de revenu moyen qui nécessite une aide sociale. Cette année, le panier de consommation mensuel pour un adulte est estimé à 3 400 couronnes, 363 dollars. Pour une famille de 2 adultes et 2 écoliers, ce chiffre s'élève à 10 700 couronnes, 1 142 dollars. Est basé sur un plan nutritionnel de 4 semaines recommandé par des experts suédois en alimentation. Dans nos calculs, nous ne prenons en compte que les besoins de base et non une consommation de luxe, a déclaré une responsable de l'agence suédoise de la consommation, Christina Diff, dans un communiqué. Elle a noté qu'en général, une augmentation des dépenses annuelles est insignifiante, alors que cette année, nous avons vu les chiffres perdre rapidement de leur pertinence. La grève des chemins de fer autrichiens menace l'arrêt des voyages. Les cheminots autrichiens organiseront une grève ce lundi qui perturbera le trafic ferroviaire dans tout le pays après l'échec des négociations salariales de dernière minute. Coincés entre 8 pays dont l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie et la République tchèque, l'Autriche est une plaque tournante importante pour les voyages en train en Europe. Le principal syndicat des cheminots avait réclamé une augmentation des salaires de 400 euros pour les 50 000 salariés du secteur. Dimanche soir, 27 novembre, l'explosion d'une bombe suivie de tirs nourris visant un hôtel très fréquenté et populaire situé près du palais présidentiel à Mogadiscio, capitale de la Somalie, aurait fait de nombreuses victimes. L'hôtel Villa Rose, situé près du palais présidentiel fortement fortifié, est un lieu fréquenté par les officiels somaliens. On ignore encore le nombre de victimes, mais les médias locaux ont rapporté que le ministre somalien de la Sécurité, Mohamed Ahmed Dodish, figure parmi les personnes blessées lors de l'attaque. Une brève déclaration de la police somalienne a confirmé les faits. La police a déclaré avoir secouru plusieurs personnes, dont des civils et des agents de l'État. Adam Avirsi, ministre d'État somalien de l'Environnement, a déclaré qu'il était sain et sauf après l'explosion terroriste qui a visé ma résidence. Le groupe terroriste Al-Shabaab, proche d'Al-Qaïda, a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Celle-ci survient un jour après que le gouvernement somalien a déclaré que plus de 100 terroristes Al-Shabaab, dont 12 de ses dirigeants, ont été tués dans la région du Mayen Shabelle lors d'une opération militaire soutenue par les milices locales et les partenaires sécuritaires internationaux. La Somalie est en proie à l'insécurité depuis des années, le groupe Al-Shabaab étant l'une des principales menaces. Celui-ci mène depuis 2007 une campagne meurtrière contre le gouvernement somalien et les forces internationales, faisant des milliers de victimes. L'ONU a également mis en garde contre l'instabilité croissante dans le pays, ses rapports périodiques de cette année sur la Somalie faisant état d'attaques menées par Al-Shabaab et des groupes pro-Daesh. Selon les estimations des Nations Unies, il y a eu au moins 1518 victimes civiles, 651 morts et 867 blessés dus à des attaques terroristes en Somalie en 2018. Il y en a eu 1459, 591 morts et 870 blessés en 2019. Le gouvernement sénégalais est déterminé à poursuivre ses efforts en vue d'augmenter ses capacités de lutte contre le terrorisme, la drogue et la criminalité, a déclaré dimanche à Dakar le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diom. Le ministre de l'Intérieur intervenait lors de l'examen par les députés sénégalais du projet du budget pour l'année 2023 de son département. Ce projet de budget est examiné dans un contexte sécuritaire complexe, marqué par de nouveaux enjeux et défis liés à l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz au Sénégal, a ajouté M. Diom. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, les autorisations d'engagement du ministère de l'Intérieur, chargées notamment de la sécurité publique, s'élèvent à plus de 310 milliards de francs CFA, environ 491,2 millions de dollars américains. Le même document indique que le montant des crédits de paiement du dit ministère est de plus de 180 milliards de francs CFA, environ 285,2 millions de dollars. Voilà, si s'achève le journal, restez à l'écoute du commentaire politique. Union européenne, catastrophe énergétique potentielle en 2023. L'Union européenne paie actuellement plus pour le gaz que toute autre région du monde. La Commission européenne avait proposé de plafonner les prix du gaz naturel à 275 euros par mégawattheure. L'idée a été totalement rejetée par les ministres de l'énergie du bloc lors d'une réunion jeudi dernier. Mais n'importe quel type de plafond pourrait amener les fournisseurs de gaz à déplacer leur pétrolier vers d'autres parties du monde où il n'y a pas de plafond, comme en Asie. Dans l'état actuel des choses, dans l'Union européenne, il n'y a aucune garantie d'un prix du gaz gérable ou même d'un approvisionnement en gaz pour 2023. Les représentants des petites et moyennes entreprises recherchent le soutien de l'Union européenne dans un contexte d'inflation élevée et de taux d'intérêt croissants. Un débat qui a eu lieu au Parlement européen cette semaine sur la promotion de la stabilité au Moyen-Orient a révélé que l'initiative contribuerait à assurer la sécurité énergétique de l'Union européenne. Cependant, un législateur a évoqué les actions antérieures de l'Occident dans la région. Les ministres européens de l'énergie se réuniront à nouveau le 13 décembre pour tenter de trouver un accord sur la question vitale de l'approvisionnement en gaz en 2023. Les analystes disent que cette crise illustre bien comment les sanctions contre la Russie se sont retournées contre l'Union européenne. Selon l'hebdomadaire britannique The Economist, plus de personnes mourront en Europe cet hiver à cause des coûts de l'énergie que celles qui sont mortes sur le champ de bataille lors de la guerre en Ukraine. La recherche indique que le coût actuel de l'énergie entraînera probablement 147 000 décès supplémentaires s'il y a un hiver typique. En cas de température douce enregistrée dans l'hiver le plus chaud au cours des 20 dernières années pour chaque pays, ce chiffre tomberait à 79 000, soit une augmentation de 2,7%. Et avec les froids enregistrés dans l'hiver le plus froid de chaque pays depuis 2000, il grimperait à 185 000, soit une augmentation de 6,0%. L'analyse a considéré la gravité de la saison de la grippe et les températures et les prix de l'énergie comme les principaux facteurs qui affectent le nombre de personnes qui mourront en Europe en dehors de l'Ukraine cet hiver. Le modèle prévoit les décès en fonction des conditions météorologiques, de la démographie, de la grippe, de l'efficacité énergétique, des revenus, des dépenses publiques et des coûts d'électricité qui sont étroitement corrélés au prix d'une grande variété de combustibles de chauffage. Dans toute l'Europe, 28% de personnes de plus âgées d'au moins 80 ans, qui représentent 49% de la mortalité totale, meurent pendant les mois les plus froids que pendant les mois les plus chauds. En moyenne, 1,2% de personnes supplémentaires meurent au cours d'un hiver, 1 degré centigrade plus froid que la normale dans un pays donné, selon les statistiques. Selon l'enquête, les prix élevés du carburant peuvent exacerber l'effet des basses températures sur les décès en dissuadant les gens d'utiliser la chaleur et en les exposant davantage au froid. Compte tenu des conditions météorologiques moyennes, le modèle constate qu'une augmentation de 10% des prix de l'électricité est associée à une augmentation de 0,6% des décès, bien que son nombre soit plus élevé pendant les semaines froides et plus faible pendant les semaines douces. En raison de l'augmentation des sanctions occidentales contre la Russie, le prix du gaz et de l'électricité pour les maisons résidentielles en Europe a considérablement augmenté. Avant la guerre, la Russie fournissait 40 à 50% du gaz naturel de l'Union européenne.
Bonjour à tous, bienvenue à partir de la capitale d'Iran, Téhéran. Aujourd'hui, le sujet de l'enrichissement de l'uranium en Iran, suite à des décisions et des déclarations de l'AIEA ainsi que d'autres pays internationaux. La situation est venue à son paroxysme puisque l'Iran a décidé d'enrichir son uranium à plus de 60%. Nous avons préparé donc le reportage, comme le veut la tradition du débat, et par la suite nous ferons venir donc nos invités. Tout de suite, je vous propose notre reportage.
L'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son site nucléaire souterrain de Fordo, et ce suite à la récente résolution de l'Agence internationale de l'énergie atomique adoptée sous le faux prétexte de manque de coopération des autorités iraniennes dans le dossier nucléaire. L'Iran a annoncé mardi 22 novembre qu'il a informé l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, de sa décision de produire de l'uranium enrichi à 60% dans une lettre envoyée au Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Téhéran a décrit cette décision comme une réponse forte à la récente résolution anti-iranienne adoptée par ce Conseil. Le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIEA, Mohammad Islami, annonçait ce mardi que la production d'uranium enrichi à 60% à Fordo a commencé depuis lundi. « Nous avons dit que les pressions politiques ne changent rien et que l'adoption d'une résolution à l'AIEA suscitera une réaction sérieuse de la part de l'Iran », a-t-il ajouté. Dans une première mesure, l'Iran a commencé à produire de l'uranium enrichi à 60% dans son usine de Fordo. Dans son deuxième action, l'Iran a injecté du gaz dans deux autres cascades de centrifugeuses IR2M et IR4 sur le site de Natanz. De plus, l'Iran a installé et lancé de nouvelles centrifugeuses dans les salles vacantes des sites nucléaires de Fordo et de Natanz. Les dernières mesures sont conformes à une loi approuvée par le Parlement iranien pour contrer dans toute leur étendue les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis, l'Union européenne et l'AIEA à Téhéran. En décembre 2020, le Parlement iranien a adopté une loi nommée le Plan d'action stratégique pour contrer les sanctions, incitant l'administration iranienne à restreindre les inspections de l'AIEA et à accélérer le développement du programme nucléaire du pays au-delà des limites fixées par le PGAC.
Alors, tout de suite sur le plateau, donc nos deux invités. Alors, nous accueillons donc Monsieur Habib Tawa, journaliste. Bonjour Monsieur Habib Tawa.
Bonjour.
ravi de vous avoir sur nos plateaux. Deuxième invité, Monsieur André Maître, André Chamy, juriste et expert en questions politiques. Bonjour, Maître André Chamy, ravi de vous revoir sur nos plateaux de Presse TV.
Je suis aussi ravi que vous. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et bonjour à tout le monde, ainsi que votre invité.
Merci. Alors, pour revenir un peu au sujet donc des négociations, enfin, il n'y a plus de négociations, puisque l'Iran a pris la décision d'enrichir son uranium. C'est un fait qui, historiquement, depuis plusieurs années, voire mois, n'a fait qu'aller sous pression. On peut vérifier directement sur le site de l'AUA le nombre de fois que l'Iran a fait venir des experts de l'AUA pour faire vérifier son niveau d'enrichissement de l'uranium. J'ai envie de commencer avec notre journaliste Habib Tawa. Vous-même, vous êtes journaliste. Êtes-vous au courant de la chronologie des faits de la situation de l'enrichissement de l'uranium iranien ?
Oui, il y a deux problèmes là-dessus. Il y a d'abord le rapport de l'Iran dans les relations 5+1. Où on a établi un accord, et puis cet accord a été récusé par les États-Unis à l'époque de Trump. Et un second problème, c'est le fait que l'AIEA était jusqu'à maintenant dans une position de neutralité, se contentant de répercuter les situations. Or, depuis 2 ans, avec l'arrivée de M. Gross, si je me souviens, ne me trompe pas, à la tête de cette organisation, il y a eu un changement du comportement de l'agence. Et plutôt que d'être simplement un observateur, est devenu une partie. C'est-à-dire qu'elle a joué le jeu américain, finalement. Les Américains ont modifié le statut de l'AIEA et sont arrivés à une situation où, au lieu de se trouver simplement à négocier avec les 5 États qui sont parties prenantes, se trouvent en train de se battre, finalement, contre des gens qui sont de simples intermédiaires. Voilà la situation telle que je la vois.
On n'oublie pas non plus le fait que ce représentant de l'AIEA est allé directement voir l'antisécessionniste pour la situation nucléaire iranienne, alors que l'AIEA, il ne faut pas l'oublier, a le droit de venir en Iran, a plusieurs fois eu l'autorisation d'aller vérifier les sites nucléaires. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Aluta? Il suffit d'aller voir, encore une fois, le site de l'organisation.
Les Iraniens ont toujours respecté les décisions de l'AIEA, de mettre des caméras, ensuite ils ont dit on enlève les caméras puisque vous ne le suivez pas. Il y a eu toute une politique dans laquelle les Iraniens ont joué franc jeu et grosso modo l'AIEA a joué aussi franc jeu, mais à partir du moment où il y a eu changement à la tête de l'AIEA, les jeux ont été forcés. Et donc l'Iran se trouve dans une situation où il faut se faire respecter. Et je crois qu'avec cette décision, l'Iran est en train de se faire respecter. Vous ne nous respectez pas et à ce moment, nous ne tenons pas compte de vos décisions qui sont complètement arbitraires.
Merci, Monsieur Habib Tawa. Monsieur André Chamy, est-ce que vous avez vu un autre pays faire preuve d'autant de conciliation par rapport au sujet nucléaire, faire venir des experts étrangers sur son territoire? Je pense à plusieurs pays, dans le Moyen-Orient, qui n'ont jamais fait état de ce genre de choses, mais par contre, l'Iran est allé ouvrir ses portes. Est-ce que vous avez vu d'autres pays autant vouloir être dans la négociation et dans l'acceptation qu'il peut y avoir des réticences?
En réalité, ce n'est pas une question de dire on a accepté ou on n'a pas accepté. On est rentré, enfin je parle de la République islamique d'Iran, et elle a accepté de rentrer dans un processus de négociation. Ce processus de négociation a abouti à l'accord du mois de juillet 2015. À partir de là, chacun devait respecter ses obligations et ses engagements. La République islamique d'Iran a respecté ses engagements. En revanche, ceux qui sont en face n'ont pas voulu respecter leurs engagements à cause justement de la décision de l'administration américaine. On dit Trump, mais en réalité, les sanctions avaient commencé bien avant, puisque même avec l'administration Obama, alors qu'il est à l'origine de cette négociation et de l'aboutissement à cet accord, les sanctions ont continué, mais via le Sénat. C'est-à-dire, rien n'a changé par rapport à cette situation-là. Mais la République islamique d'Iran a continué de jouer le jeu en croyant que les Européens allaient en quelque sorte entraîner les Américains, vers la voie de la raison. Or, les Européens ont eu un rôle que j'appellerais lâche, puisque au lieu de respecter leurs propres engagements et leurs propres signatures, ils se sont dégonflés, ils sont ralliés à la position américaine et ils ont donc obtempéré par rapport au diktat américain et notamment par rapport au niveau de sanctions, parce que la République islamique d'Iran acceptait jusque-là les sanctions prévues par l'ONU, mais pas par les Américains. Et au lieu de ramener la tension à un niveau plus bas, c'est-à-dire on revient entre guillemets aux sanctions qui étaient prévues par l'ONU pour peu qu'elles soient justifiées, et à partir du moment où elles devaient être supprimées, ben à ce moment-là, on revient à une situation de normalisation. Ce qui a été fait, c'est que les Européens, dans leur intégralité, pas un seul n'a échappé à cette règle-là, mis à part, si j'ose dire, des petits tricheurs, mais dans le bon sens du terme, ou qui ont accepté de commercer avec l'Iran par des voies détournées. Mais en réalité, le fond du problème était le non-respect par les Occidentaux de leurs engagements dans le cadre de cet accord-là. L'Iran s'est considéré comme au fur et à mesure désengagé. D'ailleurs, c'est monté crescendo. Au début, l'Iran tenait à ce que les engagements soient respectés, sauf quand elle voit qu'en face, personne ne les respecte, à ce moment-là, il devait se sentir, la République islamique d'Iran devait se sentir donc déliée de ses engagements et a commencé au fur et à mesure à se désengager des contraintes imposées par cet accord-là.
Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que c'est justifié ?
Le contrôle a continué, mais cela n'a pas permis un retour efficace des partenaires. C'est ce qui a abouti à la situation actuelle, c'est-à-dire vous ne respectez pas, mais moi non plus, je ne respecte plus donc le taux d'enrichissement, voire au-delà.
Est-ce que donc c'est justifié ? Est-ce que la réaction iranienne est-elle logique ? Est-elle même calme ? Parce que c'est plutôt vers ça. Dire, l'image, l'opinion publique pense que l'Iran est là en train de réagir à des situations d'une manière colérique. Mais est-ce que vous trouvez que la situation iranienne est logique et respecte le droit international ?
Ce n'est pas seulement le respect du droit international, mais c'est surtout le respect de la souveraineté. À partir du moment où moi j'ai apposé ma signature sur un accord et la partie en face ne respecte pas cette signature, par conséquent, l'accord est rompu. Là, j'en parle en tant que juriste. Les accords sont valables dès lors que les deux parties les respectent. À partir du moment où l'une des parties ne respecte plus, on peut considérer que le contrat est résolu et par conséquent, chacune des parties pourrait reprendre sa liberté dans tous les sens du terme. Et nous sommes dans cette situation-là. Si les Américains ou les Occidentaux ne veulent pas entendre cette raison-là parce qu'ils ont d'autres idées derrière la tête, c'est-à-dire ramener encore de nouvelles conditions à l'accord qui ne sont pas prévues, notamment par rapport à la question de souveraineté, notamment par rapport à la politique de la défense, à la stratégie industrielle de l'Iran, par rapport à ses relations avec ses voisins et notamment ses rapports stratégiques éloignés, c'est-à-dire on parle de l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan, le Yémen, et même par rapport aux problèmes palestiniens et la reconnaissance de l'État sioniste. Parce que c'est tout cet ensemble-là qui est concerné par la volonté américaine de, je dirais, pour contraindre l'Iran à accepter cet accord-là. C'est ça. Et ce qui a été refusé dès le premier accord, et Kerry et Zarif ont compris que ce ne sont pas des débats d'actualité. Aujourd'hui, on ne parle que de l'accord sur le nucléaire et tout le reste sera négocié plus tard. Sauf que les Américains ne veulent pas l'entendre et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation-là.
Merci, Maître André Chami. Monsieur Abitaro, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose au propos de Maître André Chami ? Bon, on a dû le perdre entre-temps. Mais Maître André Chami, comment vous voyez les choses pour l'Iran ? Quels sont les éléments de négociation, s'il y a encore négociation ? Parce qu'on a vu ces deux derniers mois l'Union européenne, les différentes entités occidentales réagir contre l'Iran, faire de l'interventionniste, s'en prendre à la souveraineté étatique de l'Iran, encore une fois, de différentes manières. Il n'y a pas que seulement d'un point de vue diplomatique, médiatique, tous les éléments qu'on pouvait faire, qu'on parle de soft power, ont été utilisés contre l'Iran. C'est quoi la prochaine étape pour l'Iran face à ces pays occidentaux qui ne veulent pas entendre raison ?
Vous savez, aujourd'hui, si je me réfère entre autres aux déclarations du président Macron, nous arrivons à la situation suivante, c'est que ce dernier voudrait inclure dans les négociations, en tout cas dans l'accord, la question des missiles balistiques, la question de la politique industrielle de l'Iran par rapport à l'ensemble de son arsenal, l'ensemble des positions iraniennes dans la région, parce que eux, ils ont une interprétation qui consiste à dire que c'est un rôle nuisible, alors qu'au contraire, nous avons constaté au cours des dernières dernières années que l'Iran a été plutôt a eu plutôt un rôle stabilisateur, notamment avec ce qui s'est passé en Irak, en Syrie. Sans le rôle de l'Iran, aujourd'hui Daesh serait pratiquement à la frontière de la République islamique d'Iran, c'est-à-dire c'est un rapport stratégique qui permet à ce pays-là de préserver ses intérêts et de protéger sa sécurité-là. Mais les Occidentaux ne veulent pas entendre ça parce que justement, ils sont à l'origine de ces manœuvres de déstabilisation et c'est ce qui explique aujourd'hui la situation chaotique dans la région et pas seulement dans la région parce que les exigences occidentales vont au-delà de la région du Moyen-Orient parce qu'on est en train d'assister à une sorte de redessin de la carte du monde. Et c'est ce qui explique ce qui se passe en Ukraine, mais c'est ce qui explique aussi ce qui se passe en mer des Chine, de Chine et également en Amérique latine avec les changements politiques dans toute cette région-là et même en Afrique. Parce que l'Afrique est également concernée par ce nouveau dessin qui est prévu du monde entier. Moi, je l'appelle le map monde, c'est-à-dire la carte du monde est en train d'être dessinée et chacune des forces est en train de positionner ses pions, excusez-moi de la trivialité du terme, afin de préserver ses intérêts immédiats et stratégiques.
Merci André Chami. Monsieur Aboutaoua, je pense que vous êtes de retour. Et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes du même avis que maître André Chami, comme quoi l'Iran est plutôt un élément stabilisateur pour la région et non pas déstabilisateur, et que c'est un tort géopolitique de s'en prendre, que ce soit d'un point de vue soft power ou hard power, contre l'Iran?
Absolument. Si vous voulez, l'Iran fait partie avec la Russie et la Chine de tout un bloc qui refuse aujourd'hui qui voudrait imposer le multipartisme face à l'unilatéralisme américain. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'unilatéralisme américain coordonné avec la position israélienne et que les puissances de l'Occident européen suivent aveuglément. Ça, c'est le fond de la situation. Et donc les Israéliens, comme l'a laissé entendre votre correspondant, M. Chami, les Israéliens, eux, disposent d'une bombe atomique. Pas seulement pourraient avoir, ont déjà une bombe atomique, et plusieurs exemplaires, d'ailleurs on parle de 200 bombes atomiques, et pour autant, il n'y a aucun contrôle sur eux, ils n'ont pas participé à l'accord de dénucléarisation auquel plusieurs pays participent. Donc on se trouve dans une situation aberrante où les donneurs de leçons ne sont pas ceux qui les exécutent. Donc simplement la politique, c'est que l'Iran, qui est comme vous dites un facteur de stabilité, puisque autour de lui il y a des pays qui sont mouvants, qui sont instables, etc. Et Israël en réalité voudrait avoir autour de lui des régions instables pour pouvoir avancer, s'imposer, être le gendarme d'une région déstabilisée par elle. Et donc l'empêcheur de tourner en rond, c'est finalement l'Iran. Et l'Iran, comme a dit Maître Chami, en Syrie, en Irak, etc., a arrêté la progression des mouvements takfiristes que les Américains ont encouragés avec l'aide israélienne. D'ailleurs, on sait quel a été le rôle des Israéliens sur le plateau du Golan et les bombardements qu'ils font en Syrie, etc., pour aider les takfiristes. Donc, tout ça, ça fait partie d'un schéma d'ensemble dans lequel on est embêté que l'Iran soit un facteur de stabilisation, de remise à l'ordre de régions que, en fait, ces puissances voudraient déstabiliser. Et le résultat, c'est qu'on fait monter la tension contre l'Iran, et l'Iran est en train de dire aujourd'hui: si vous m'embêtez, moi aussi je peux vous embêter et moi aussi je peux faire ce que je peux, et c'est finalement une bonne chose.
C'est une bonne chose. De quelle manière c'est une bonne chose? Parce que c'est vrai que si on reprend les propos du porte-parole...
Parce qu'il faut faire comprendre au vis-à-vis que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez impunément. C'est ce qui a été fait jusqu'ici. N'oubliez pas qu'on avait assassiné le chef des gardiens de la révolution à Bagdad il y a quelques années, avec les félicitations de Trump, etc. Il y avait du n'importe quoi. Les Américains se voyaient comme les maîtres de la cour de récréation, et ce n'est pas une cour de récréation, c'est un lieu où il y a des puissances qui sont respectées, qui sont millénaires, comme c'est le cas de l'Iran, et qu'on ne peut pas traiter par le revers de la main. Il y a donc une bonne raison pour laquelle les Iraniens ont haussé le ton en disant: si vous ne respectez pas vos engagements, nous non plus nous ne respecterons pas des accords que vous n'avez jamais voulu respecter. Parce que ce qu'on appelle les sanctions, c'est en fait un boycott. C'est un embargo qui est fait contre l'Iran. Utiliser même l'expression de sanctions est malsain. Ça veut dire qu'il y a un maître et des élèves. Il n'y a pas de maître et des élèves. Ce sont des puissances qui sont dignes de respect et qui n'ont pas à être dans l'unilatéralisme américain. Pour revenir à un stade multipolaire.
En effet, Maître Chami, il y a même en Europe, en fait, il y a une discordance au niveau des propos. Hein. On a vu l'Italie sur la question migratoire qui n'est pas d'accord avec les outils mis en place par l'Union européenne. Mais c'est un sujet beaucoup plus vaste, puisque là, il y a un véritable désaccord du système ancien et on souhaiterait mettre un système nouveau. Est-ce que l'Iran symbolise ce système nouveau, cette volonté de mettre fin à ce système ancien qui est impérialiste ?
Non, mais de toute façon, l'Iran fait partie du nouveau dessin. Jusqu'à maintenant, si j'ose dire, un certain nombre de pays ont été négligés. Aujourd'hui, il y a de nouvelles puissances qui sont nées depuis la Deuxième Guerre mondiale et notamment depuis la fin du siècle passé. Et on voit quand même que chaque puissance a envie de jouer un rôle qui a été jusqu'à maintenant négligé. Vous prenez la Chine qui avait moins de rôle sur la scène internationale. Maintenant, la Chine, forte de sa puissance économique et de sa projection à travers le monde, elle est capable de jouer un rôle différent, ce que les États-Unis lui refusaient. La Russie veut confirmer son rôle. L'Iran, l'Inde et bien d'autres pays voudraient également confirmer leur rôle sur la scène internationale et ne pas laisser la place uniquement aux États-Unis, avec l'unilatéralisme rappelé par votre excellent intervenant. Aujourd'hui, l'Iran a démontré qu'il est capable de jouer un certain nombre de rôles de stabilisation dans la région, et notamment au Moyen-Orient, a démontré qu'il est capable également de jouer un rôle par rapport à ce que j'appellerais un nouveau visage du monde qui parle de liberté, de droit au peuple, à l'autodétermination, et notamment par rapport au peuple palestinien, mais également par rapport à l'Afrique, qui est jusqu'à maintenant considérée comme la chasse-garde des Occidentaux à travers l'exploitation de la population, l'exploitation des richesses, et surtout la nuisance à son écosystème. Aujourd'hui, un certain nombre de pays doivent s'exprimer, l'Iran en fait partie, et par conséquent, c'est un nouveau dessin qui se prépare, et évidemment, l'Iran aura son rôle indiscutablement, et c'est la raison pour laquelle elle fait face à une confrontation, mais également à une résistance, à une pression sans nom, mais également sans commune mesure avec ce qui a été fait jusqu'à présent par rapport à l'ensemble des pays du monde.
Merci André Chalet. J'ai envie de poser une question au nom de nos auditeurs qui pourraient être sceptiques quant à la position iranienne. Est-ce que l'Iran est dangereuse ? Est-ce que c'est dangereux ? Est-ce que c'est un pays dangereux au niveau international ? Est-ce que c'est un pays dangereux pour les pays du Moyen-Orient ? Est-ce que les propos tenus par les Américains et les Européens comme quoi le fait que l'Iran soit devenu fort ou devienne fort, ou en tout cas est sur le chemin de ce genre de situation, est-ce vraiment un danger pour le monde, pour le système de négociation, le système diplomatique, et est-ce qu'il va provoquer des guerres ? Est-ce que l'Iran est un pays qui souhaite provoquer des guerres ? Est-ce que c'est seulement sa politique internationale ?
La réponse est simple. À partir du moment où vous posez cette question-là de cette manière-là, ça veut dire vous insinuez qu'il y a un danger du côté Iran. Alors que jusqu'à présent, si l'on prend la situation réelle, il est dangereux pas pour le monde, il est dangereux pour le monde imposé par les Américains, effectivement, parce que leurs intérêts se trouvent menacés et leur projection à travers le monde se trouve menacée et leur stratégie mondiale par rapport à la domination par leur impérialisme, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan militaire, sur le plan géographique, évidemment, cette puissance est menacée, pas seulement par l'Iran, mais entre autres par l'Iran, et c'est la raison pour laquelle l'Iran est la cible d'attaques de toutes sortes, et d'ailleurs, les tentatives de déstabilisation, les tentatives qui se passent à travers sa frontière, notamment à travers les alliés des Américains, et notamment les Kurdes, je ne citerai que eux, tout cela fait partie, et bien entendu, de la manière dont les Américains alimentent et entretiennent cette fable comme quoi l'Iran est un danger, et bien entendu on crée autour de l'Iran cette espèce de de guerre qui est menée contre l'Iran en réalité, mais en réalité l'Iran ne fait que se défendre. Jusqu'à présent, moi je n'ai pas vu l'Iran attaquer quiconque, mis à part ceux qui ont voulu nuire à ses intérêts et attaquer sa sécurité et sa, je dirais, et sa force stratégique.
Merci monsieur Habib Tawa, de manière courte, en quelques mots, vous êtes d'accord, est-ce que l'Iran est un danger?
Il y a une vingtaine d'années, une notion qui s'appelle « rock state », les États voyous, pour qualifier tous leurs ennemis. En réalité, les premiers États voyous, c'est eux. Toute la politique qu'ils ont menée, toutes les violences qu'ils ont faites, prouvent bien que ce sont eux-mêmes des États voyous, et ils essayent de retourner la dialectique.
Merci beaucoup. Je vous rappelle donc que nos deux invités, on a eu le droit à un juriste et un journaliste, donc connaissent très bien le sujet. Moi, de mon côté, je remercie nos deux invités d'avoir participé à ce débat qui, encore, on rappelle, c'est l'enrichissement de l'uranium iranien dû à des négociations qui ont été faussées. Moi, je vous dis donc au revoir maintenant. Je mets fin au débat aujourd'hui en vous proposant un nouveau débat pour la prochaine fois, ici à partir des studios de la capitale iranienne, Téhéran.
L'Iran et son 7e art. Le cinéma de la défense sacrée, deuxième partie. Le cinéma de la défense sacrée est d'abord un cinéma documentaire enraciné dans les mémoires, les notes, les rapports, les autobiographies, les récits et l'histoire officielle iranienne. Ce cinéma met en scène l'opposition entre les deux pouvoirs iraniens et irakiens, traite de sujets comme le martyr, les blessures, la captivité, le dévouement, le renoncement, et enfin propose des réflexions sur les retombées affectives, socioculturelles et spirituelles de la guerre. Les scénarios, les pièces théâtrales et les séries télévisées constituent le noyau de la production artistique dramatique de guerre. Au début, ces auteurs se consacraient plutôt à la description de la résistance courageuse en insistant sur la cruauté de l'ennemi et les victoires sur le front. Néanmoins, au fur et à mesure, des thèmes plus généraux comme les problèmes affectifs et psychologiques, les différents points de vue de la génération de la guerre et de celle d'après-guerre, l'étude des comportements des combattants, les réactions de la population vis-à-vis de la guerre, les souffrances des combattants, des prisonniers et de leurs familles, bref, l'ensemble des réalités de la guerre se sont introduits dans cet art. Rasoul Mollaholipour est le fondateur du cinéma différent des premières années de guerre avec son film Neynava, 1983, et par la suite, en 1985, avec son deuxième film Petite barque vers la côte, qui raconte l'histoire de Khorramshahr, assiégé puis occupé au début de la guerre, et les efforts des défenseurs pour la libérer. Avec Vol de nuit, 1986, il fait preuve de réalisme en tentant de garder ses distances avec la vision irréelle et purement sentimentale des œuvres de l'époque. Mais le point de départ du cinéma romanesque de la défense sacrée est sans doute le film L'éclaireur, 1988, d'Ebrahim Khatami Kia, qui demeure l'un des films importants du genre, avec une perspective réaliste et une nouvelle forme d'iconographie. Son autre film, Mohajer, 1989, influença de la même manière les réalisateurs suivants. On peut considérer Khatami Kia comme le premier réalisateur du genre du cinéma de la défense sacrée, à faire un cinéma réaliste en créant des personnages très humains et en dépassant le simple cadre de la guerre pour également mettre en situation la vie des combattants ou des vétérans avant ou après la guerre, leur vie privée ou leur place dans la société, etc. Il a ainsi une filmographie variée, avec toujours l'amour présent aux côtés de la guerre. Citons « Du Carré au Rhin » 1992, qui met en scène un ancien combattant mourant, gazé pendant la guerre et qui va en Allemagne pour se soigner. « La Tour de la Ronde » 1995, un film ésotérique sur l'élévation et le cheminement personnel des combattants dans des situations extrêmes et racontant la frontière entre l'amour et la guerre. L'odeur de la robe de Youssef, 1995. L'agence de verre, 1998. Un de ses meilleurs films, qui revient sur la réalité de la vie des anciens combattants dans une société qui les oublie. Et Le Ruban Rouge, 1999, un film poétique et complexe dans lequel la guerre est présente et absente à la fois. Les films des années 90 reviennent généralement sur la situation des martyrs, des vétérans, des prisonniers de guerre et de leurs familles, et des conséquences de la guerre au niveau social. Ils développent également, avec un regard a posteriori, les valeurs que soutenaient les Iraniens durant la guerre. C'est ainsi qu'apparaissent les œuvres d'autres réalisateurs comme Azizullah Ahmadinejad, Ahmad Moradpour, Ahmad Reza Darwish, Kamal Tabrizi, Mohammad Ali Ohangar, Maziar Miri ou Mohammad Hossein Latifi. Kamal Tabrizi, plus connu pour ses comédies de guerre, présente à la fin des années 80 un film à veine très mystique, Traversée, 1988. Ahmadinejad réalise en 1991 un des chefs-d'œuvre du genre de la défense sacrée avec Hour en feu. Il récidive en 2004 avec L'alarme du froid. Moradpour devient, lui, le fondateur d'un sous-genre de ce cinéma, en privilégiant la mise en scène de l'ennemi dans sa complexité humaine, notamment dans son film « Sans tapis de feu », réalisé en 1993. Ahmad Reza Darwish est également très connu du public avec des films inoubliables tels que « Kimia » 1994, « Le territoire du soleil » 1996, « Natif du mois de mer » 1999 et « Duel » 2003, avec leurs sujets particuliers et leurs personnages touchants. Latifi avec « Le troisième jour » 2006, qui revient sur les derniers jours de la résistance dans la partie ouest de Khorramshahr, et Miri avec « La récompense du silence » 2007, etc., sont des réalisateurs de la nouvelle génération s'illustrant et faisant évoluer le genre du cinéma de la défense sacrée, renforçant au passage le lien entre ce cinéma et les spectateurs. À cette liste, on peut également ajouter « Comme un conte » 2006 de Khosro Sinaï, « Enfant de la terre » 2007 de Mohammad Ali Ohangar et « Le bus de nuit » 2007 de Kiumars Pour Ahmad. Ces nouveaux films donnent une nouvelle dimension au genre cinématographique de la défense sacrée. Parallèlement à ces drames, un sous-genre comique s'est également développé avec des œuvres telles que « Lady est avec moi » 1995 de Kamal Tabrizi, qui raconte l'évolution spirituelle d'un couard qui se retrouve au front contre son gré et qui change. Dans le même genre, on peut également citer la trilogie de Massoud Dehnamaki intitulée « Les disciplinaires », dont le premier opus a été réalisé en 2007. Le cinéma de la défense sacrée a produit de nombreux films durant ces quatre décennies. il est impossible de tous les nommer. Citons quelques-uns des films les plus connus de ce genre. Kenny Manga, 1987, de Seifollah Dutt. Bachou, le petit étranger, 1990, de Bahram Beyzaï. L'épopée de Majnoun, 1992, de Jamal Shouje. Le Ma, 1995, d'Abdel Hossein Barzide. Sheida, 1999, de Kamal Tabrizi. Voyage à Chazabé, 1995. Hiva, 1998, et Génération Brûlée, 1999. M. Kommer, 2006, de Mola Rolipour. Gilane, 2005, de Rachan Bani Etemad. Altitude Basse, 2002. Au nom du Père, 2006. Che, 2014, de Hatami Kia. Et Tranchée 143, 2013, de Nalgès Abyar. Chacun de ces films regarde l'histoire de la guerre d'un point de vue différent. Mais ils ont tous en commun la volonté de préserver la mémoire des 8 ans de résistance et de sacrifice d'une nation engagée qui réussit à sauvegarder l'avenir de sa patrie.
Thank you.